d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Jean-Pierre Boris et Nicolas Benita à la réalisation de cette émission. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Après un passage au Mexique et un autre à Cuba, l'ancien président bolivien Evo Morales vient d'arriver en Argentine où le statut de réfugié politique lui a été accordé. Chassé de son pays, la Bolivie, à l'issue de 3 mandats par un soulèvement populaire, Evo Morales fait désormais partie de la longue cohorte des chefs d'État latino-américains qui, au cours de l'histoire, ont dû fuir leur pays, chassés soit par des coups d'État, soit, moins souvent, par des soulèvements. C'est une élection qui a mal tourné, qui a été le déclencheur de troubles qui ont abouti à sa fuite le 10 novembre dernier, la fuite du premier président indigène du pays. Mais quel bilan économique laisse Evo Morales? Quelle a été sa politique économique au long de ses 3 mandats? A-t-il révolutionné les fondements de l'économie bolivienne? La misère, les inégalités ont-elles disparu? Voilà les questions que nous allons nous poser tout au long de cette émission avec les 2 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Christine Delfour.
Bonjour.
Christine Delfour, vous êtes professeure des universités en civilisation espagnole et latino-américaine contemporaine à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous menez des recherches au sein des universités boliviennes, à Cochabamba, l'Université San Simón, au sein du Centre de Recherche de Sociologie. Vous êtes également active au département de sociologie de l'Université Mayor San Andrés de La Paz, la capitale administrative bolivienne. Et vous êtes l'auteur d'un essai sur la complexité de la culture politique bolivienne, L'invention nationaliste, qui est publiée aux éditions L'Harmattan. Avec vous, en studio, Xavier Ricard Lanata, bonjour.
Bonjour.
Xavier Ricard Lanata, vous êtes un haut fonctionnaire franco-péruvien, ancien directeur des partenariats internationaux de l'ONG CCF des Terres Solidaires. Vous êtes également anthropologue, spécialiste du monde andin. Vous êtes l'auteur d'un livre récent, La tropicalisation du monde, paru au PUF, les presses universitaires de France, dans lequel vous brossez le tableau d'un monde inversé, dans lequel les sociétés du Nord, les pays riches, sont sommés de s'ajuster aux exigences d'un capitalisme redevenu colonial. Je cite la présentation de votre livre, qui reproduit donc ce Nord, les configurations que le Sud a naguère connues. Et puis au cours de cette émission, bien sûr, des reportages, nous allons retrouver notre correspondante à La Paz, Alice Campagnol, et de nombreuses illustrations sonores extraites des archives de RFI. Le président bolivien Evo Morales est donc en fuite, chassé parce qu'il y avait des suspicions de fraude lors de l'élection présidentielle qui était organisée dans le pays au mois d'octobre. Est-ce que des considérations économiques pourraient aussi justifier cette révolte populaire, Christine Delfour?
Je ne le sais pas, mais en tout cas, cette révolte est fondamentalement une révolte, je dirais, contre l'absence de considération d'Evo Morales du processus démocratique. C'est fondamentalement ça. Après, effectivement, on peut penser à certaines considérations économiques, d'autant plus que 2 jours avant les élections, Evo Morales n'a pas signé un accord sur le lithium avec une entreprise allemande. Alors, on peut épiloguer là-dessus, mais pour l'instant, moi, je n'ai aucune preuve de tout ça.
Xavier Ricard Lanata, des considérations économiques, des origines économiques à ce soulèvement?
Alors, écoutez, si considérations économiques il y a, il faut les envisager sur le long terme. C'est-à-dire que la politique globale qui a été adoptée par le gouvernement Morales, d'un certain côté, a répondu à des besoins et à une attente sociale très forte, puisque la nationalisation totale des hydrocarbures et donc de leur exploitation a permis de financer une politique redistribution qui était sans équivalent dans l'histoire de la Bolivie, qui n'avait jamais doté d'un État protecteur, redistributif, à l'égard de toutes les couches de la population, comme ça a été le cas. Le problème, c'est que, comme souvent, cette politique repose encore et toujours sur l'exportation de matières premières faiblement transformées, Et d'ailleurs, la question des hydrocarbures n'est pas unique de ce point de vue. Hein. Evo Morales a aussi beaucoup encouragé les exportations de produits agroalimentaire.
On en parlera et donc, tout au long de l'émission. Alors, en train de nous résumer l'émission en deux minutes.
Non, ce que je veux dire, c'est que les insatisfactions économiques, elles portent sur les limites de cette politique primo-extractiviste et à capacité redistributive finalement limitée en raison de sa base économique fondamentale. Elles sont pas récentes, elles sont plus anciennes et elles permettent d'envisager l'ensemble de la séquence Morales d'un point de vue beaucoup plus nuancé. Et donc, ce qui est en train de ressurgir là à l'occasion du problème du processus électoral qui répond à d'autres types de fautes politiques et de difficultés, c'est ce que tout à l'heure disait Madame Delfour, et on va revenir dessus, c'est justement le sentiment qui est partagé par la population bolivienne d'une impasse du modèle de développement dans lequel se trouve le modèle de développement bolivien, et qui est d'autant plus difficilement ressenti que la Bolivie s'est présenté du point de vue international au regard des autres nations comme justement le fer de lance, le chantre d'une conception radicalement nouvelle du développement, une conception précisément post-extractiviste.
Alors on va revenir, je le disais dans l'émission, sur tous ces aspects, mais le départ de Evo Morales le 10 novembre dernier a été précédé de troubles nombreux, et aujourd'hui à La Paz, la vie semble presque redevenue normale, même si la situation politique ne l'est pas, puisque c'est une présidente intérimaire, Jeanine Agnès, qui occupe la fonction suprême dans le pays. Les commerces, les industries de La Paz et de la ville d'El Alto, toute proche, ont souffert des blocages, des manifestations. Écoutez ce reportage signé Alice Campagnol dans les rues de ces deux villes.
Ville de El Alto, 8h du matin, la rue s'active, taxis, minibus, vendeurs ambulants et employés pressés se croisent à l'entrée du téléphérique. Ici, beaucoup ont un emploi informel, non déclaré et vivent au jour le jour. Si le travail reprend peu à peu, la période post-électorale a été très difficile, comme explique Lourdes Condori, qui vend des petits déjeuners dans la rue.
On ne trouvait plus rien dans les marchés, puis il fallait faire la queue pour tout, pour tous les aliments. Et en plus de ça, tout a augmenté, les produits étaient très chers.
Hélène, quant à elle, travaille dans une boutique de vêtements. Pendant les blocages, impossible de venir travailler. Elle n'a donc rien gagné.
Après ce qu'il s'est passé, je n'ai pas le choix. Je vais utiliser mes économies pour vivre parce que j'ai une petite fille et il faut que je la nourrisse.
2000 millions de dollars, soit 4% du produit intérieur brut, c'est l'estimation de la perte économique nationale causée par quasiment un mois d'inactivité, selon la Chambre de commerce. Mario Landivar gère, quant à lui, une boutique d'ameublement haut de gamme dans le quartier chic de Calacoto, à La Paz.
95% de nos exportations viennent des États-Unis.
Et pour lui, même problème qu'à El Alto, le mois de novembre a été catastrophique.
En général, les meilleurs mois de l'année, c'est octobre et novembre. Donc, les ventes du magasin ont été très affectées par les blocages qu'il y a eu. Maintenant, on compte beaucoup sur le mois de décembre pour se remettre, parce qu'après un mois sans activité, il faut que l'on puisse payer nos employés.
Plus grave encore, cela faisait déjà des mois que l'entrepreneur ressentait une certaine frilosité dans la consommation.
Avant tout ça, nous avons vécu des mois difficiles, car face à l'incertitude des élections, le marché était déprimé. Et ce, depuis le début de l'année. Tous les gens qui travaillent dans le milieu de la décoration et de l'ameublement ont fait face à la même situation.
Et il est loin d'être le seul à avoir vu son chiffre d'affaires baisser. Marina tient un modeste salon de beauté à La Paz. Et pour elle, la conséquence de ce conflit et de la baisse de clientèle est irréparable.
Hemos abierto, pero no era pues lo mismo que como otros días.
Pendant le conflit, nous avons ouvert, mais nous n'avions pas autant de clientèle que d'habitude. Les clientes n'avaient pas la tête à venir dans un salon pour se faire coiffer ou pour se faire belle. J'ai vérifié notre registre d'activité, et déjà, depuis juin ou juillet, la situation n'était pas très bonne. Donc, à cause de tout ça, ce mois-ci, nous n'avons pas assez pour payer le loyer à la propriétaire et encore moins pour nos salaires. Alors la meilleure solution, c'est de fermer avant d'être complètement dépassé.
Activités de service, commercial, travail informel, tourisme, industrie, tous les secteurs ont souffert de ce conflit post-électoral et l'agence de notation financière Moody's est en train de réviser la note bolivienne pour une possible dégradation.
Un reportage signé donc Alice Campagnol à La Paz, Christine Delfour. Cette situation économique difficile pour le petit commerce, est-ce qu'elle reflète l'importance économique qu'a La Paz dans la vie économique bolivienne? Est-ce que c'est le centre de la vie économique du pays?
Oui, il y a deux centres économiques de la vie du pays, La Paz et puis Santa Cruz. C'est évident. Or, si la journaliste avait fait le reportage à Santa Cruz, les résultats seraient peut-être différents, les commentaires seraient peut-être différents parce qu'il n'y a pas eu du tout d'impact, pratiquement pas d'impact de la crise qui a eu lieu. Pratiquement, s'est focalisé sur Cochabamba et sur La Paz. Donc on aurait une vision très contrastée. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les gens vivent au jour le jour. Il y a une économie informelle. Donc, dès qu'il y a un problème, les gens se trouvent dans des situations assez complexes. Mais, par exemple, le manque de ravitaillement à La Paz n'a pas été... Ça a été sur quelques jours. Ça n'a pas été très, très long. Et il y a eu une répercussion pendant 4 ou 5 jours sur les prix. Mais les prix, maintenant, se sont stabilisés et dans les marchés. Et on retrouve à peu près de tout aujourd'hui.
Alors, vous nous avez parlé de La Paz, de Cochabamba, oui. De Santa Cruz. Pour la plupart de nos auditeurs, ce sont des noms qui ne veulent rien dire.
Rien dire, bien sûr.
La plupart d'entre eux, souvent, ont du mal à placer la Bolivie sur une carte mondiale. Donc, est-ce que la professeure Delfour pourrait nous faire un petit cours très rapide de géographie physique sur la Bolivie où est-ce que c'est les grandes villes,
volontiers.
Ses grandes caractéristiques.
Volontiers. Alors, très rapidement, la Bolivie, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est au centre de l'Amérique du Sud, qu'elle a été toujours le carrefour, hein, soit dans la période coloniale, mais après, de tout ce qui se passait, avec deux événements très importants. Une qui est la perte de son débouché vers la mer, vers le Pacifique à la fin du 19e siècle, qui a créé, dans l'imaginaire national en particulier, une image d'un pays qui n'était pas gagnant, d'une certaine façon.
La perte au profit du Chili.
Perte au profit du Chili, qui a perdu d'autres, en plus, territoires importants au nord, dans une guerre à la début du 20e siècle, en 1904, la guerre de l'Acre contre le Pérou et puis le Brésil. Et puis, une autre guerre, qui a été un conflit important dans les années 30-35, avec le Paraguay au sud, le Chaco. Donc, il y a dans l'imaginaire national, c'est vrai, un sentiment d'avoir perdu quelque chose. Et Evo Morales, lors de ces dernières années, a présenté une querelle devant le tribunal international à La Haye pour essayer de récupérer face au Chili, une partie, au moins une sortie vers la mer.
Un pays amputé, enclavé.
Un pays très contrasté avec trois régions, on va dire rapidement. Une région sur les hauts plateaux où se trouve la majorité de la population, hein, Quechua et Aymara, avec deux capitales, une capitale économique, La Paz, et une capitale, institutionnelle, traditionnelle, qui est Sucre.
Qui est une petite ville.
Qui est une petite ville, aujourd'hui, bien endormie. Et puis, même s'il y a eu de certains problèmes, c'est sur cette cordillère des Andes et sur ces hauts plateaux que se trouvent les grands centres miniers, on va dire, classiques. Et puis, au centre des vallées, dont la capitale, on va dire rapidement, est Cochabamba, mais des vallées, disons, à 2500 mètres pour nos auditeurs, semi-tropicales. Et puis...
Donc, vallée agricole.
Agricole, principalement, oui. Et ensuite, ce qu'on appelle les terres basses, l'Orient, c'est-à-dire la zone de l'Amazone, et donc avec une capitale, Santa Cruz, qui a des caractéristiques particulières parce que ça a été une zone, disons, de frontière, on va dire, avec
c'est le Far West
d'une certaine façon, et c'est aujourd'hui la zone de l'agrobusiness, et donc avec une classe, une élite commerçante importante et plutôt blanche, alors que dans les deux autres, si vous voulez, zones de ce pays-là, ce sont des majorités quand même indiennes et métisses.
Et Santa Cruz très tournée vers le Brésil.
Santa Cruz très tournée vers le Brésil, mais également tournée sur elle-même, je dirais. et avec, jusqu'à présent, peu de volonté d'avoir un protagonisme au niveau national. Quand elle a voulu, quand elle était on lui a proposé, par exemple, d'avoir des postes dans les ministères. Par exemple, je pense pendant la période de Banzer, la période de la dictature, elle
donc
ne demandait.
Ça, c'était dans les années 70.
Elle n'a demandé que des postes, par exemple, le ministère de l'Industrie ou pour soutenir un gouvernement, un aéroport international. Donc jamais avec une volonté d'avoir un rôle au niveau national, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, semble-t-il, avec ce nouveau leader qui est Camacho.
Est-ce que l'anthropologue Xavier Ricard-Lanata veut compléter ce portrait
C'est tout à fait juste. Ce qu'on peut peut-être rajouter pour bien permettre aux auditeurs de saisir l'état d'esprit bolivien, notamment vis-à-vis de cette revendication ancienne d'accès à la mer qui a été donc perdu à la suite de la guerre avec le Chili à la fin du 19e siècle, c'est que la Bolivie était, pendant la période coloniale, l'épicentre de la production minière de la vice-royauté des Indes occidentales, dont la capitale était Lima, mais il y avait...
Donc là, on parle du 17e, du 18e, et l'épicentre
la production argentifère qui venait remplir les coffres de la couronne espagnole était à Potosi. Potosi, aujourd'hui, c'est une ville presque surréaliste quand on découvre les faubourgs et les rues de cette ville autrefois extraordinairement opulente, hein, perchée à plus de 4000 mètres d'altitude dans un environnement minéral hostile, et on y découvre des palais dignes des plus belles réalisations de l'architecture baroque espagnole. C'est donc la Bolivie a joué un rôle important dans l'économie mondiale et a été pendant donc une période longue un lieu de non seulement de production de richesses minérales mais aussi un lieu de production culturelle artistique de premier ordre et donc
la grande richesse était l'étain.
L'argent. Les mines attiraient une main-d'œuvre qui venait de toute la vice-royauté depuis le Pérou et le Chili, donc jusque à l'actuel Paraguay, etc., qui travaillait en payant un impôt en nature, un impôt en travail pour la couronne espagnole. Et c'était très étonnant à l'époque de voir que le quechua, notamment, qui est une langue à l'origine parlée par les habitants du Pérou, hein, de la zone de Cusco, il y avait tellement de brassages de populations quechuaphones provenant justement d'anciennes régions de l'Empire Inca qui étaient densément peuplées et dont les Espagnols tiraient profit pour trouver justement la main-d'œuvre nécessaire à l'exploitation argentifère à Potosi, que la Bolivie s'est retrouvée comme étant un lieu de brassage culturel et linguistique. Le quechua n'a jamais été autant parlé dans les Andes qu'au XVIIe siècle. Jamais autant parlé. Parce que finalement, c'était la langue franche, hein, la langue de communication.
Le quechua qui est la langue des Incas, qui est encore parlé beaucoup aujourd'hui au Pérou, alors qu'en Bolivie, on parle autre langue indienne, Aymara. Revenons au 21e siècle, parce que vous nous parlez du 17e comme si vous y étiez encore, Xavier Ricard-Lanata, sans vouloir vous vieillir trop. Bon, Evo Morales, dont on parle beaucoup dans cette émission, évidemment, a fait trois mandats, même s'il n'a pas tout à fait terminé le troisième. Est-ce qu'on peut dire que sa politique a amélioré la situation économique de la Bolivie, Christine Delfour ?
Oui, sa politique économique a amélioré bien évidemment la Bolivie. Et de fait, le PIB, d'après ce qui en ressort quand même, a augmenté de plus de 5%, semble-t-il.
De plus de
5%. 5%, 4,5% depuis les 13 années ou 14 années
où il a été là.
En moyenne annuelle.
En moyenne annuelle, tous les ans. Donc, si vous voulez, on pourrait prendre plusieurs exemples pour voir où, effectivement, les choses. Ce que je pense surtout de Evo Morales.
Prenez les exemples.
Dans l'activité, par exemple, dans l'agriculture, par exemple, on peut dire que Evo Morales a voulu essayer de s'attaquer au secteur agricole qui n'était pas productif ou qui avait été abandonné par les différents gouvernements successifs néolibéraux. Et donc, il a créé des fonds spécifiques pour redévelopper la petite agriculture, etc. L'idée étant, bien évidemment, que la Bolivie devienne autosuffisante et que... Donc, ça, c'est une chose. Et ça, c'est fait. Mais parallèlement, et c'est ce qui est toujours contradictoire dans la politique d'Evo Morales, en particulier dans l'agriculture, c'est qu'il a favorisé aussi, disons, le développement du quinoa, comme on dit en français, c'est toujours étonnant de le dire au masculin, alors qu'en espagnol, on le dit au féminin, et d'un quinoa pour l'exportation. Et donc, des paysans ont laissé abandonner leur culture au profit du quinoa pour l'exportation. Et ça génère, dans certaines régions où aujourd'hui on cultive le quinoa, un manque de diversification de la production d'autres produits agricoles. Et surtout, ça a un impact très fort sur les sols particuliers, parce que c'est quand même une production qui est extensive et qui est intensive, pardon. Donc voyez, c'est toujours ça en Bolivie. Bon, je vous donne cet exemple, mais je pourrais en donner d'autres.
C'était Codici et quoi d'ailleurs sur RFI. Nous parlons de l'économie bolivienne avec Christine Delfour, professeure des universités à Paris Est, Marne-la-Vallée, et Xavier Ricard Lanata, haut fonctionnaire franco-péruvien et anthropologue spécialiste du monde andin. Xavier Ricard Lanata, est-ce que Evo Morales a réussi à transformer la Bolivie sur le plan économique? Vous nous disiez que non, finalement, que voilà. Ça restait un...
Malheureusement non, puisque le pays est resté tributaire d'une production faiblement diversifiée, destinée à l'exportation. Le grand pari d'Evo Morales, quand il est arrivé, ça a été de récupérer la rente pétrolière qui était... insuffisante parce que les concessions de exploitation d'hydrocarbures avaient permis aux entreprises internationales de se tailler des contrats léonins qui justement leur permettaient d'extraire la ressource en contribuant faiblement à l'économie nationale. Donc là, il y a eu une nationalisation, oui. Renégociation de tous les contrats. Tout le monde pensait à l'époque que...
On va écouter Evo Morales, voilà. Xavier Ricard Lanata, parce que l'une des grandes décisions qu'il a prises quand il est arrivé au pouvoir, c'est la nationalisation de certaines ressources du sous-sol. Écoutez ce qu'il disait le 21 décembre 2005 au micro d'Eduardo Febro, alors journaliste à la rédaction Amérique latine de RFI.
Notre gouvernement exercera son droit de propriété et nationalisera les hydrocarbures. Nous allons nationaliser. L'une des clauses qui reconnaissait la propriété du pétrole à la sortie des puits est annulée. L'État est propriétaire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du sol. Mais pour les entreprises responsables et respectueuses de nos lois, nous garantissons leurs profits. Si quelqu'un investit, c'est pour gagner de l'argent, mais le peuple bolivien a voté pour la nationalisation. Et comme je suis convaincu que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, il faut la respecter.
Evo Morales, en 2005, Christine Delfour, ça vous fait réagir, cet extrait sonore?
La voix de Dieu, oui, ça me fait réagir. Bien évidemment, je ne me souvenais pas de cette déclaration.
Mais est-ce qu'il a tenu promesse, Evo Morales, Xavier Ricard Lanata?
De ce point de vue, oui. Donc ça a été mené tambour battant et avec succès. Par rapport à la situation précédente, le gouvernement est propriétaire des ressources du sous-sol. Et il est seul, donc, maître de sa ressource et de la façon dont elle est gérée. Les entreprises doivent lui payer une contribution pour le droit d'exploiter cette ressource. Et cette ressource fiscale devenue donc importante a permis de financer des programmes sociaux qui étaient justement inexistants autrefois. Donc ça, Evo l'a fait.
Quand il est arrivé au pouvoir, est-ce que le pays était très pauvre? Est-ce qu'il y a une grande misère de la population?
C'est surtout, comme toujours, le pays est globalement pauvre, mais surtout les inégalités sont énormes. Donc, entre la zone précisément dont nous parlions tout à l'heure...
Santa Cruz, vous voulez dire?
Alors, la partie de Santa Cruz, donc, qui
dont
est...
Dont parlait Christine Delfour.
Voilà, dont parlait Christine Delfour tout à l'heure, qui est traditionnellement donc une zone de production agricole, avec des grands propriétaires fonciers qui se consacrent à la culture du soja, par exemple, ou la culture du maïs transgénique pour l'exportation, et puis des zones qui sont moins productives, les zones de haute altitude, le piémont amazonien, qui n'ont jamais produit par unité de surface ni par unité de travail une quantité de richesse équivalente. Donc la Bolivie était un pays extrêmement divisé sur le plan donc de la répartition des revenus et sur le plan social et culturel. Elle le reste, malheureusement. Elle le reste.
Pourquoi ?
Elle le reste parce que les différences de perception entre la partie amazonienne, indigène, et la partie, quand je dis indigène, les indigènes vivent à cheval entre la zone
andine
et la zone amazonienne. Ce sont d'ailleurs deux cultures différentes et on aurait tort de les assimiler si facilement.
Oui.
Et puis ensuite, vous avez donc toute la partie plus occidentale qui envisage les autres comme de purs étrangers avec lesquels ils ne se reconnaissent aucune forme de destin commun ou de culture partagée. Alors cette situation qui prévaut depuis la période coloniale, elle fait obstacle à ce qu'on puisse envisager des politiques d'unité nationale vraiment adossées à un sentiment d'appartenance collective très fort. Et alors, c'est ça qui a fait que Evo, en se présentant comme le président des Indiens, a été obligé de surjouer, en quelque sorte, cette identification ethnique pour maintenir une unité forte autour de sa personne, face aux tentatives toujours un petit peu irrédentistes, dissidentes de la zone de Santa Cruz.
Revenons à la situation économique, Christine Delfour. Est-ce que Evo Morales a réussi? Est-ce qu'il a réduit les inégalités selon vous? Est-ce que la misère a diminué en Bolivie aujourd'hui par rapport à la situation qui prévalait quand il est arrivé au pouvoir il y a près de 15 ans?
Oui, mais il y a quand même l'émergence d'une, ce qu'on appelle une classe populaire urbaine importante. Donc il y a des...
C'est ce qu'on entendait en quelque sorte dans le reportage d'Alice Campagnol tout à l'heure. Il y avait,
oui, tout à fait. Alors fait partie de toute cette économie informelle qui existe en Bolivie. Et ce qui est intéressant dans le système aujourd'hui, enfin, Evo, c'est qu'il faut toujours penser qu'il y a plusieurs économies. Il y a une économie informelle qui est importante et qui a toujours été là, mais qui a été avec les mesures prises par Evo et la situation économique également mondiale avec la hausse des prix des matières premières a permis, à cette classe d'émerger vraiment dans les villes. Et puis vous avez donc cette économie-là informelle, puis vous avez l'économie de l'État, alors puisque quand même l'État a renationalisé absolument toutes les ressources premières, en fait.
Il n'y a pas seulement les hydrocarbures, pas seulement le gaz ou le pétrole. Il y a d'autres ressources qui ont été nationalisées.
Il y a par exemple pour le lithium, il y a une volonté de reprendre Alors c'est compliqué parce que dans la Constitution, la terre et les ressources appartiennent aux communautés indiennes. Donc il y a toujours eu un jeu entre la propriété du sol par les communautés indiennes et les ressources hors sous le sol et une revendication de ces communautés indiennes aussi de participer à l'exploitation
alors
de ces ressources.
Alors on va en venir à une des grandes ressources du sous-sol. En 2009, la grande affaire bolivienne, c'est le lithium, un minerai indispensable aux batteries des voitures électriques qui se multiplient dans notre monde. Et le lithium dont la Bolivie possède les principales réserves au monde, disait à l'époque, alors ça a évolué depuis, le correspondant de RFI Reza Mahmoud dans un reportage qu'on écoute maintenant.
Balayé par les vents à près de 4000 mètres d'altitude, le Salar d'Uyuni est le plus grand désert de sel au monde. C'est ici que se trouve le site pilote bolivien d'extraction du lithium. Pour extraire ce métal mou destiné aux batteries des voitures électriques, il faut tout d'abord pomper et évaporer les saumures qui se trouvent sous la croûte de sel du Salar. Une technologie de pointe que les Boliviens ont décidé d'apprendre eux-mêmes, explique Waldo Encinas, l'un des ingénieurs en chef du projet.
Ce qui nous motive, c'est notre amour pour la patrie. Nous voulons faire quelque chose qui soit vraiment à nous. Ici, toute la technologie est bolivienne, depuis la recherche jusqu'au produit final. Ça nous a coûté énormément de tout apprendre depuis zéro. Mais petit à petit, nous y parvenons et nous sommes sur le bon chemin. Je crois que d'ici à 2 ans, nous pourrons sortir notre produit final et concurrencer les principales entreprises.
La Bolivie regorge de matières premières qu'elle exporte sans valeur ajoutée. Pour ne pas répéter ce schéma avec le lithium, La Paz a déjà repoussé des offres de partenariat formulées par plusieurs multinationales telles que Mitsubishi ou encore Bolloré. L'objectif affiché de la Bolivie est même à terme de pouvoir fabriquer ses propres batteries au lithium. Le président bolivien Evo Morales.
Nous allons poursuivre notre politique de récupération et de nationalisation, mais nous voulons aussi passer à l'étape suivante, qui est celle de l'industrialisation. D'ici peu, nous aurons une grande industrie du lithium en Bolivie. Et la Bolivie décidera du prix du lithium, des batteries de lithium pour le monde entier. Il n'y a que 2 chemins. Ou nous sommes avec le peuple, ou nous sommes avec l'Empire.
Une stratégie ambitieuse, mais fortement critiquée par certains experts locaux qui estiment que la Bolivie est en train de passer à côté du marché du siècle. Et ce, alors que ses voisins, argentins et surtout chiliens, produisent déjà du carbonate de lithium. Juan Carlos Zuleta est l'un de ses experts.
Il est tout de même curieux que dans le domaine que nous connaissons le moins, le secteur minier non traditionnel, le gouvernement décide de faire appel à ses propres ressources humaines qui sont insuffisantes et peu formées. Pour moi, nous en sommes à 8 ans d'expérimentation erronée. Il aurait été plus judicieux d'établir les bases d'un accord avec une entreprise possédant de la technologie de pointe.
Alors que la tonne de carbonate se négocie déjà autour de 11 000 euros, le marché mondial du lithium pourrait dépasser les 40 milliards d'euros en 2022. Une belle cagnotte qui pourrait changer le destin de l'un des pays les plus pauvres du monde.
Ce reportage de Reza Nour Mahmoud est déjà vieux de 10 ans. Mmh. On a entendu les annonces triomphales d'Evo Morales. À l'époque, Christine Delfour, est-ce que la Bolivie est devenue un grand du lithium mondial? Est-ce qu'il produit ses batteries? Est-ce qu'il a réussi à s'industrialiser?
Non, malheureusement, non. C'était effectivement le discours de Evo Morales est maintenant dépassé par une réalité. La Bolivie n'a que 18% à peu près des réserves mondiales de lithium. Donc, c'est pas le premier pays qui a du lithium. Il y en a bien sûr ailleurs et en particulier chez les voisins. Le Chili et l'Argentine. Ensuite, le lithium bolivien n'est pas de la qualité qu'il faudrait pour être, disons,
tout à fait rentable.
Et ensuite, ça, ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a pas, le savoir-faire, il n'y a pas les techniciens pour pouvoir mettre en place ce qu'évoque Evo. Donc. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le lithium soit, si vous voulez, l'or d'hier, soit le lithium devienne l'or de demain. Ça, ce n'est pas vrai. La seule chose qu'il y a, c'est que effectivement, la Bolivie exporte du carbonate de potassium, principalement sur le marché chinois. Ça, c'est vrai. Alors là, oui, il y a quelque chose. Mais sinon, on n'est pas encore dans les batteries. On n'est pas, si vous voulez, je me souviens que Evo Morales était venu ici en 2008.
Ici, en France.
En France, en 2008. 2008, a invité par l'Institut des sciences politiques et avait déclaré que en 2025, tous les Boliviens auraient une voiture électrique. Ce qui
est loin d'être la vérité.
La vérité. Ensuite, le fait que les gisements de lithium soient au Salar de Uyuni, il y a des difficultés même, si vous voulez, pour acheminer, ne serait-ce que sur d'infrastructures, si vous voulez, de ferroviaires ou de chemins ou de routes, pour acheminer, s'il y avait une production importante de lithium, soit vers la passe, soit vers le littoral. Donc on en revient
à l'affaire chilienne. Et au fait que la Bolivie soit privée d'accès à la mer directe.
Voilà, direct.
Xavier Ricalanata, donc le lithium, c'est emblématique de l'échec d'Evo Morales à avoir diversifié l'économie bolivienne.
Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de cette affaire, c'est qu'on en revient toujours, dans ces pays, à une conception du développement reposant sur l'extractivisme, l'extraction de matières premières. Alors là, évidemment, Evo avait bien conscience du fait qu'il ne s'agissait pas uniquement d'extraire, qu'il fallait transformer. Mais transformer, ça n'est pas seulement transformer pour l'exportation, c'est transformer pour permettre à un marché intérieur de se développer grâce à justement une activité qui se diversifie et qui donne à une classe moyenne les moyens de son développement. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que la Bolivie, au même titre d'ailleurs que le Pérou ou d'autres pays de la même région, a conservé une conception du développement reposant essentiellement sur le rapport à l'étranger, hein, l'extraction de ressources et la vente de ressources à l'étranger. C'est là le drame, parce que l'aspiration populaire qui avait porté Evo au pouvoir, elle était inscrite dans un mouvement qu'on appelle le mouvement décolonial, c'est-à-dire la remise en cause finalement d'un rapport à la production qui est justement fondée sur l'extraction et l'aliénation des ressources au profit d'une demande internationale, une demande étrangère, sans que jamais on imagine vraiment sérieusement comment une prospérité pourrait reposer sur ce que les économistes appellent le développement endogène, c'est-à-dire l'essor d'un marché intérieur reposant sur une production diversifiée et la consommation des ressources qui sont produites par les habitants eux-mêmes. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire bolivienne, il y a eu une période de ce type.
Laquelle ?
Au 18e, justement. Vous me disiez que je parle comme si j'habitais le 18e. C'est pas tout à fait faux. Au 18e siècle, la guerre de succession d'Espagne qui s'est achevée en 1715, mais qui a embarrassé les Bourbons terriblement dans l'administration des colonies. D'une part, donc, le développement de la piraterie dans l'océan Atlantique ont bloqué les échanges entre l'Europe et la Bolivie.
Et la Bolivie a donc été obligée de se recentrer sur elle-même.
Exactement.
Voilà. Voilà, on a tout compris.
La Bolivie a été obligée, au même titre d'ailleurs que le Pérou et l'actuel Équateur, de développer un marché intérieur. On a vu surgir des manufactures de laine, des manufactures qui permettaient d'échanger sur de vastes territoires, des productions appartenant à différentes zones avec des spécificités. Et pour la première fois, cette économie auto-centrée s'est affranchie donc de la dépendance à l'égard des métropoles. Malheureusement, sitôt que les échanges ont été rétablis, toutes ces belles leçons ont été oubliées et on a retrouvé ce tropisme d'extraversion qui caractérise les sociétés néocoloniales. Alors Evo n'est pas parvenu à inverser ça. Au contraire, il l'a accentué développer encore davantage, notamment par exemple en autorisant la déforestation en Amazonie pour l'extension de la production de maïs transgénique, lui aussi à destination des marchés asiatiques.
Xavier Ricard, Lanata, oui,
je voudrais ajouter quelque chose, si vous permettez. Au niveau, par exemple, du gaz, la Bolivie, quand même, est un producteur de gaz. Les deux principaux pays qui achètent le gaz, c'est bien sûr les voisins, le Brésil et l'Argentine. Or, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant ces 15 dernières années, il y a eu, de la part du gouvernement, une volonté de financer à l'intérieur du pays un ravitaillement de gaz dans toutes les villes, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les Boliviens, ou en tout cas dans grandes villes et ailleurs, ont aujourd'hui un réseau
d'alimentation
en gaz. Et ça, pour la première fois, enfin, c'est un des rares secteurs, si vous voulez, énergétiques, où quand même l'État a investi à l'intérieur du pays. C'est un des rares.
C'est un début de développement. Un début de développement. Xavier voilà. Ricard Lanata, vous parliez de la déforestation. Il y a une autre manière de déforester, c'est de faire brûler ou c'est les incendies. Les zones rurales boliviennes ont été très lourdement affectées tout récemment par des incendies massifs. Écoutez le reportage réalisé au mois de septembre dernier dans la région de Chiquitania, où une forêt sèche à la diversité exceptionnelle brûlait depuis 2 mois quand Alice Campagnol s'y est rendue.
Concepción, Jobore, San Ignacio de Velasco, San Matías, il semblerait que toutes les régions de l'Est bolivien soient touchées par les incendies. Face aux désastres écologiques et humains, la solidarité s'organise. Toute la Bolivie se mobilise pour venir en aide à l'Amazonie. Dans ce centre de dons à Santa Cruz, on centralise combinaisons, masques, pelles à feu, vivres, bouteilles d'eau, en attendant que des volontaires prennent leur voiture, fassent plus de 5 heures de route et distribuent le matériel sur les lieux des incendies. Depuis le début, c'est la société civile qui s'organise de manière informelle. Gabriela Franco.
Grâce à des contacts, nous avons obtenu ce dépôt, car ils ont vu que l'on se mobilisait, que l'on demandait des dons. En fait, la plupart d'entre nous rassemblaient du matériel chacun de son côté. Donc ce que l'on a fait, c'est unir nos forces pour pouvoir tout mettre dans un seul endroit, que tout parte d'ici et ne pas perdre notre énergie.
Andrés fait partie de ces volontaires qui passent tout leur week-end près des flammes. Il va partir dans quelques minutes, son 4x4 rempli d'équipement.
Je suis venu demander s'il y avait des choses à amener d'urgence. Il y a beaucoup de listes de matériel qui circulent, mais si c'est mal organisé, finalement ça s'accumule là-bas. Ce qui est demandé en permanence, ce sont les outils, pelles, machettes, mais aussi des bottes, car elles terminent complètement brûlées comme les vêtements, qu'il faut changer tout le temps. On m'a demandé des chaussettes, des boissons hydratantes, de la nourriture en boîte.
Au feu, les conditions sont extrêmement dures. Il fait plus de 40 degrés dehors. Et près des flammes, la température est encore plus élevée. Et les volontaires manquent de tout et parfois ne sont pas préparés. 2 morts déjà depuis le début des incendies. Alors les militaires français de la sécurité civile, arrivés il y a un peu plus d'une semaine, sont d'une aide précieuse. Spécialisés en feux de forêt, leur expertise vaut de l'or ici, dans un pays qui n'est pas préparé. Leurs moyens font également la différence, notamment les drones qu'ils utilisent. Capitaine Sylvain.
Là, avec le drone, nous permettons au commandement du groupe feux de forêt de faire des reconnaissances à distance. Alors ça peut être aussi bien en amont, en tant qu'outil au commandement pour qu'il puisse envoyer les hommes au bon endroit. Et ça peut être également après, une fois que le feu est éteint, pour voir avec une caméra différente, une caméra thermique, s'il reste ce qu'on appelle des points chauds, des endroits où le feu couve encore, où à l'œil nu on ne voit pas que le feu brûle, mais au moindre coup de vent, ça pourrait raviver le feu.
Ces quelques 40 militaires ne pourront pas faire de miracle. Ils viennent ajouter leurs efforts à ceux des pompiers boliviens, à ceux des professionnels argentins et péruviens et des volontaires venus de tout le pays. La mobilisation est en marche en Bolivie pour combattre les incendies.
C'était donc un reportage d'Alice Campagnol, diffusé une première fois au mois de septembre dernier sur les antennes de RFI. Ce reportage, Christine Delfour, il pose la question environnementale. Finalement, voilà un pays qui vit de ses ressources du sous-sol et essentiellement, et de son agriculture, même si on a relativement peu parlé de l'agriculture andine et de l'agriculture des populations paysannes. Est-ce qu'il y a une politique de préservation de l'environnement qui est diligentée par les gouvernements boliviens depuis qu'Evo Morales était aux affaires ?
Eh bien non, c'est le constat. Et le constat le plus dramatique, c'est ce qui s'est passé dans la Chiquitanía. C'est qu'il y a, malgré les discours sur le vivre bien, le bien vivre, sur le développement durable, etc., on voit un événement qui est une catastrophe aujourd'hui en Bolivie, une non-prise de conscience du gouvernement de ce qui se passait en Chiquitanía, également des réactions, je dirais, pseudo-idéologiques refusant l'aide, par exemple, des Argentins, parce que le gouvernement Jartin de Macri était de droite, et le précédent gouvernement avait mis à disposition du gouvernement bolivien 200 pompiers et des canadaires, etc., qui ont été refusés à ce moment-là. Et quant à la politique de, si vous voulez, environnementale, ce n'est pas seulement Chiquitanía, c'est aussi sur le lac aujourd'hui, Titicaca, qui est sur les hauts plateaux.
Titicaca, le plus haut lac du monde, qui est à la frontière entre la Bolivie et le Pérou,
est un lac qui, en tout cas du côté bolivien, est aujourd'hui pollué. Il y a une volonté de créer un tourisme, mais sans prendre en considération le développement durable. Et c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Xavier Ricard Lanata.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Evo, les raisons pour lesquelles il n'est pas allé jusqu'au bout de sa politique de bien vivre et de transformation du modèle de développement bolivien, elles sont politiques. Elles sont politiques parce que cette politique eût exigé que on donne à des structures autonomes les moyens de développer des économies locales fortement diversifiées et avec une forme d'autonomie, de décentralisation importante, qui d'ailleurs à l'origine s'inscrivait dans les perspectives de la réforme constitutionnelle engagée par Evo au lendemain de son arrivée au pouvoir, hein, qui entendait donner aux populations amérindiennes et aux structures locales les moyens de leur épanouissement en leur confiant justement la gestion des ressources. Mais cette autonomie, évidemment, à un moment, introduit une forme de pluralisme politique dont le gouvernement ne pouvait pas s'accommoder parce que justement la conception fondamentale qui avait présidé à la construction de l'outil politique qui est le MAS, hein, qui est le parti qui a amené Evo au pouvoir, c'est qu'il faut constituer une base politique extrêmement solide, robuste et unifiée pour justement inverser le rapport de force avec cette zone de Santa Cruz dont je parlais tout à l'heure. Alors, politiquement, le besoin de contrôle social du MAS et de Evo militait en faveur du centralisme. Militer en faveur du centralisme et d'une conception justement complètement contradictoire vis-à-vis des objectifs de développement centrés sur les ressources naturelles, l'autonomie des communautés locales et la viabilité écologique. Vous voyez, la question en fait, elle est politique. Et c'est ça qui a aveuglé Evo, et qui l'a conduit à adopter un mode de gouvernement centralisateur, extrêmement, de plus en plus autoritaire au fil des années, et qui a contrarié ce qui était à l'origine sa grande vision du buen vivir.
C'est le dernier mot de cette émission. Voilà. Xavier Ricard Lanata, voilà. Christine Delfour, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission était réalisée par Nicolas Benita. Je rappelle, Xavier Ricard Lanata, le titre de votre livre, La tropicalisation du monde au PUF. La semaine prochaine, nous entrons dans une période de rediffusion. Et je vous donne rendez-vous en 2020, promis, pour de nouvelles aventures économiques.
Géopolitique, le débat.